Cette capsule fait partie des 5 à retrouver pour la chasse au trésor de Podren. Prêtez bien l'oreille à tous les détails.
Stop, c'est bon, c'est terminé, pas la peine. C'est la 6e capsule de la chasse aux œufs, c'est fini. Foxys, tu peux venir sur scène.
Bravo, félicitations. Vous allez réussir à assembler toutes les étapes de création d'une fiction, ou d'une fiction sonore. Comme vous avez pu l'entendre, c'est une fiction dont le médium principal est le son. Un film sans images, en somme. Mais ce que vous avez entendu n'est qu'une façon de faire. On peut autant faire du livre audio, qu'une histoire avec une narration, ou alors en utilisant juste le sound design et des comédiens et comédiennes pour raconter votre histoire. Cette série de capsules aura autant été une démonstration des possibilités qu'un encouragement à faire.
Dans cette capsule mystère, nous avons fait appel aux créateurs et créatrices dont les fictions ont été lauréates des catégories liées au mixage et au scénario du concours honorifique La Nuit sans images, ou encore dont les créations ont été sélectionnées cette année pour le mur des fictions de Podren 2024.
Chacun et chacune vont vous présenter un conseil ou une astuce pour chaque étape de création montrée dans chacune des capsules de la chasse aux œufs. Bien sûr, cela reste des avis subjectifs, et parfois opposés, qui dépendent beaucoup des préférences personnelles et des modes de production très variés que l'on peut trouver dans la fiction sonore.
Vous remarquerez également une surreprésentation d'hommes. Ce déséquilibre est une réalité à la fois des sphères professionnelles, en radio par exemple, et des sphères amatrices, issues du forum Netophonix, appelé la Saga Sphère, même si ça a beaucoup évolué depuis. Aujourd'hui, la créatrice de notre histoire peut atteindre le fictionneur mystère et prendre la relève. Désormais, on trouve des profils de plus en plus variés dans ce médium, donnant lieu à des créations de plus en plus variées.
La première capsule, récit introductif, représente l'étape de l'écriture. La capsule est inspirée des premières sagas MP3, très narrative et brisant le quatrième mur, souvent dans le genre de la fantasy, et très inspirée des jeux de rôle, comme avec Reflet d'acide de JBX. Aujourd'hui, on retrouve des fictions sonores inspirées des mêmes univers, mais dans un style plus immersif et complètement interactif, comme de vrais jeux de rôle en somme. Nous pouvons citer par exemple Un donjon pour une dette de Elric Melny.
Si vous réalisez une série, avant de vous lancer dans la réalisation du premier épisode, écrivez tous les épisodes d'un coup, ou au moins un fil rouge.
Soyez maître de la fin de votre histoire. N'y dérogez jamais, validez cette fin avant de développer votre histoire. Les imbrications dans votre scénario se feront tout naturellement. Il est peu recommandé de tricoter entièrement son histoire tout au long de l'écriture. Il vaut mieux avoir une idée fixe, une sorte de tableau final de ce qu'on attend de notre propre récit et de faire en sorte que le scénario y aille par diverses intrigues, divers arcs narratifs, mais le but étant de toujours avoir ce tableau final un petit peu comme scotché au-dessus du front ou comme une sorte de leitmotiv ou un mantra. C'est le matin, il faut se réveiller en pensant toujours à la même image, même scène de fin, en tout cas même morale, simplement même chute. Concrètement, c'est que comme ça, et uniquement comme ça, que vous garderez votre raison tout au long de la création de votre récit.
Essayez de respecter au maximum la règle des 3 unités du théâtre. En un jour, en un lieu, en un seul fait. Minimisez les ellipses et les voyages au sein d'un même épisode, et restez sur les rails de l'intrigue principale. Un épisode ou un mono doit être comme un plan séquence. S'il doit y avoir une coupe, l'auditeur doit l'entendre distinctement, par un bruitage, un changement d'ambiance et de réverb ou un ralentissement du rythme.
Vos personnages sont le poumon de votre récit. Sans eux, votre scénario ne vit pas. Donc, mieux vous réfléchissez à vos personnages, mieux votre récit pourra respirer.
Dès l'écriture, pensez aux personnages comme les pièces d'un jeu, avec chacun ses forces et ses faiblesses. Utilisez une métaphore, par exemple, les signes astrologiques ou un écosystème. Naturellement, des points communs ou divergents vont apparaître, pour faire naître ou enrichir les intrigues.
Pensez déjà à la mise en scène de votre histoire. Les transitions, les effets, les bruitages, comment certains vont être utiles non pas juste là pour illustrer ce qui se passe à l'action, mais comment ils vont participer à créer un univers cinématographique sonore. Et ainsi, trouver votre patte artistique. N'ayez pas peur de vous inspirer d'œuvres qui vous touchent particulièrement ou qui font écho à ce que vous racontez. Mais surtout, osez. Tentez des trucs, bordel!
Exploitez les spécificités du médium. Donnez l'opportunité à vos dialogues de stimuler d'autres sens que l'audition en faisant mention de ce que peut voir ou sentir un personnage, par exemple. Jouez aussi sur les ambiguïtés des bruitages, voire de niveau de narration, si le récit s'y prête, bien sûr. Ne décrivez, par les dialogues ou la voix, que le nécessaire, c'est-à-dire ce qui ne peut pas être entendu ou ce qui a besoin de précision pour être compris par l'auditoire.
Sur une série à plusieurs personnages, ou un monochoral, il peut être utile de penser dès l'écriture à la présentation des personnages avec un trait particulier. Accent, prononciation, gimmick, ou alors une catchphrase. Cela peut faciliter l'appropriation des personnages par les auditeurs et auditrices.
Quand vous avez fait votre scénario, vous pouvez le faire relire par d'autres personnes et demander des critiques construites. C'est très dur d'être à la fois juge et partie pour votre écriture.
La seconde capsule, grosse ambiance, est liée à l'étape du montage et surtout du sound design. Elle joue sur l'ambiguïté des sons. La pluie est en fait un barbecue. Le violon, qui paraît extra-diégétique, est en fait joué par un personnage. C'est aussi représentatif du travail de bruiteur ou bruiteuse, qui enregistre et crée des sons qui n'ont au départ rien à voir avec l'objet représenté à l'audio.
Comme vous n'avez pas l'image, il faut tout maximiser autour du son. Et donc écrire votre histoire toujours en pensant aux sons que vont émettre vos personnages, ou en tout cas les sons face auxquels ils vont devoir interagir.
Le ou la scénariste et l'ingé son peuvent travailler ensemble pour écrire le son de chaque scène, faire des recherches, voire même enregistrer des sons ensemble. Chaque détail a son importance. Type d'environnement, résonance, matière, arrière-plan, bruitage. C'est utile au moins pour un ou deux épisodes ou pour les premières scènes, pour se mettre d'accord sur le rendu attendu et sur le degré de détail. Ou de folie.
Alors pour moi, c'est très important, avant de commencer le montage, de créer une direction artistique cohérente pour l'œuvre. Parce que la direction artistique, ça va influer de toute façon sur notre travail, sur notre montage. Ça va influer sur le rythme qu'on va choisir pour les dialogues, la façon de monter, choisir les sons, de choisir les musiques. Ça va influer sur tout. Et il faut quand même créer quelque chose d'un minimum cohérent avant. Alors, la direction artistique, souvent, elle se choisit à partir de l'écriture, mais au moment du montage, on se rend compte qu'il y a des choses qui marchent, d'autres qui marchent pas, et souvent, on revoit notre jugement pendant le montage de l'œuvre. Et donc, pour moi, c'est très important de choisir tout ça avant même de commencer à monter, pour savoir dans quelle direction on va aller, savoir, mais surtout, en fait, les musiques qu'on va utiliser, qu'elles soient cohérentes. Avant même de parler de sound design, pour moi, c'est très important de bien rythmer ces dialogues, parce que c'est beaucoup plus simple d'abord de faire une pré-réalisation avec les dialogues, les réponses, les silences qu'il faut, etc. Et c'est plus simple après de monter les ambiances par-dessus. Et puis même, il ne faut pas avoir peur, en rythmant ces dialogues, de laisser respirer l'œuvre un petit peu, de laisser du temps, des moments de contemplation, parce qu'à l'audio, c'est des choses qui vont marcher, en fait.
Réaliste et vraisemblable, c'est pas la même chose. Choisissez vos samples en fonction de ce qu'ils évoquent pour la plupart des gens. Ne cherchez pas forcément le 100% réaliste qui peut être mal interprété.
Enregistrez un maximum de sons vous-même. Vous éviterez ainsi de perdre un précieux temps à chercher dans votre bibliothèque de sons ou sur Internet le fichier qui correspondrait à votre vision. Enregistrer un bruitage soi-même est très satisfaisant, car cela demande d'élaborer un dispositif pour pouvoir produire et capter le son en question, ce qui peut générer des anecdotes particulièrement cocasses. La qualité sera au moins aussi bonne que ce que vous auriez trouvé en ligne, et en plus, votre son sera unique, car il n'aura jamais été utilisé ailleurs. Et il sera parfaitement adapté à la situation que vous cherchez à représenter, vu qu'il aura été élaboré spécifiquement pour celle-ci.
Un bon compositeur sait quand il est nécessaire de garder le silence. Rien ne vous force à décorer une scène avec une musique. Même, parfois, il est préférable de ne pas s'encombrer d'une musique quand la scène n'en a pas besoin.
Ne jamais laisser une ambiance 100% silencieuse. Mettez toujours des sons de vent, de nature, de ville en extérieur ou des bruitages de néons, de VMC, de machines en intérieur.
Un drone peut parfois aussi bien faire le taf qu'une musique.
La troisième capsule, vive-voix, correspond au jeu d'acteur. En réalité, cette étape intervient après l'écriture. C'est l'étape où il faut donc faire un casting, puis diriger les comédiens et comédiennes qui s'enregistrent dans le micro. Comme toute la compréhension passe par la voix, le jeu d'acteur est primordial. Il permet de préciser des intentions, tout en ajoutant du réalisme, ou en donnant un ton à l'histoire. Enfin bref, en renforçant l'immersion. Là où un livre audio va plutôt être narré avec une voix off, et lu comme un livre. Ainsi, la qualité du micro, l'environnement sonore lors de l'enregistrement, la manière d'enregistrer et le mode de production sont aussi des facteurs à ne pas négliger.
Il faut savoir que, quand on dirige des comédiens, c'est souvent une complicité qui se construit. Elle ne vient jamais naturellement, quand bien même vous enregistriez votre frère ou votre sœur, votre compagne, compagnon ou simplement vos amis. Dans tous les cas, il faut construire cette relation et cette relation se repose essentiellement sur de la confiance. La confiance que vous allez prêter à votre comédien est celle que il ou elle va vous prêter en retour. Pour que cette confiance se construise naturellement, il faut bien préparer le terrain, c'est-à-dire concevoir un caractère de personnage, c'est-à-dire des traits majeurs qui ressortiront dans toutes les circonstances auxquelles seront mêlés votre personnage, son ton, éventuellement sa nature profonde. Mais ensuite, il faut laisser environ 70%, 80% même du champ libre à l'interprète pour qu'il puisse composer autour de ce que vous avez conçu, en tout cas pour le personnage que vous lui avez confié. Et seulement de cette manière, vous arriverez à échanger naturellement, instinctivement autour de la création de ce personnage. C'est ce qu'on appelle dans le métier composer un personnage.
Ça permet de créer des choses qu'on n'aurait pas forcément pensé en tant que réalisateur. Et au final, la construction d'un personnage en voix, elle se finalise toujours au moment de l'enregistrement, avec la voix du comédien qui finalement va donner quelque chose d'unique.
Si vous en avez la possibilité, enregistrez vos comédiens ensemble, s'ils ne sont pas trop nombreux. Chacun d'entre eux donnera l'énergie aux autres pour être dans le bon ton. La qualité de leurs échanges aura toujours le dessus sur celle de l'enregistrement. La perche et le HF peuvent être des solutions.
N'ayez pas peur de demander à vos comédiennes et comédiens de faire des reprises. Prévenez-les en amont. Communiquez clairement, simplement et poliment, tout se passera bien.
Prenez le temps de tester des interprétations, des rythmes, des prosodies, des mélodies vocales différentes. Aucune prise n'est mauvaise, et vous pourrez même constituer une prise parfaite à partir de segments de plusieurs d'entre elles. Cela peut d'ailleurs rassurer l'interprète, en particulier si ses répliques sont longues et que ce n'est pas un professionnel. Mais ne négligez pas le plaisir que doit procurer une session d'enregistrement. Faire la même réplique trop de fois de suite pourrait être démotivant. Il faut doser, en fonction de la patience de chacun, et surtout, rester encourageant.
Je vous conseille de vous échauffer avant d'enregistrer. Il y a plein de petits exercices vocaux qui existent pour faciliter l'articulation ou la respiration. Placez sa voix dans le masque pour être bien timbré. Vous serez plus efficace rapidement et vous éviterez de vous faire mal à la gorge si à un moment vous devez projeter votre voix, crier, sortir du volume, quoi. Il y a la technique de la sirène. Ça, répéter plusieurs fois, pour bien échauffer la voix, c'est top. Ou alors, il y a le à répéter pendant un moment pour chauffer les articulations. Et pour la respiration, munissez-vous d'une paille et soufflez régulièrement dans la paille. Vous mettez votre main de l'autre côté de la paille. Le but, c'est de souffler le plus régulièrement possible et le plus longtemps possible. À répéter plusieurs fois également.
N'hésitez pas à grimacer devant votre micro si votre personnage doit ressentir une émotion forte. Ça s'entendra.
Tout en faisant attention à ne pas produire de bruit parasite, vous pouvez tout à fait bouger les mains en parlant. Cela donnera de l'élan à votre interprétation et vous permettra aussi de vous sentir plus à l'aise.
Si un acteur ou une actrice doit crier, baissez le gain en conséquence pour la saturation.
Si un comédien a de l'écho ou un bruit de fond trop gênant, une couette par-dessus la gueule, ça aide bien. Et pensez à vous hydrater durant les prises.
N'hésitez pas à lancer l'enregistrement bien avant de dire votre texte. Parlez pour vérifier votre niveau d'entrée et ne pas vous laisser envahir par le stress du bouton rouge.
La quatrième capsule, drôle d'effet, se penche sur le mixage. L'étape où l'ensemble prend vie. Où les voix sont associées à l'ambiance, la musique et les bruits. Mais aussi à divers effets appliqués. Et où l'écoute est rendue plus agréable par le traitement du son. Ici, il s'agit d'une cassette. Le genre du found footage, le fait de retrouver des enregistrements sonores, est très utilisé en fiction audio, car son contenu est directement pensé pour ce format. Le journal enregistré permet aussi de justifier les monologues, et donc une forme de narration. Le fait de devoir rechercher ou suivre des enregistrements crée du suspense, et une souplesse temporelle utile narrativement. Par exemple, on peut vous recommander la fiction professionnelle Doulange, proposée par Caroline Prévinaire et Katia Lanero-Zamora, qui est une enquête policière utilisant ce format.
Le mixage, c'est toujours une affaire de discipline personnelle. Lorsqu'on s'apprête à monter une fiction sonore, il faut procéder par étapes, il faut être méthodologique et y aller, on va dire, point par point. Le premier point étant évidemment le bout à bout ou le pré-montage, comme on pourrait dire, c'est-à-dire vraiment imbriquer toutes les parties des enregistrements que vous avez effectués avec vos comédiens ou parfois de design sonore. Et ensuite procéder au nettoyage, etc. En fait, il faut, quand vous faites par exemple une série, entièrement boucler le pré-montage, tous les épisodes, avant de procéder à la réalisation, avant de procéder au montage définitif. De cette manière, et uniquement de cette manière, vous n'aurez pas de mauvaises surprises lors de la réalisation. Ça vous permettra de l'aborder beaucoup plus sereinement et de perdre surtout moins de temps à devoir recoller les morceaux alors que vous avez concrètement d'autres choses à faire.
Alors pour la partie mixage, moi c'est très important de bien définir les points de vue, là où on place entre guillemets le regard de l'auditeur pour mixer efficacement, qui est pas par exemple quelqu'un qui est censé être loin, bah finalement on le mixe près. Savoir où on se trouve dans l'œuvre, ça permet de créer l'espace et de savoir où est-ce qu'on va mettre, à droite, à gauche, plus loin, plus proche, etc. Parce qu'un bon point de vue, ça permet d'ancrer l'auditeur à un endroit. Et ça, c'est le mix qui va se charger ça, avec les réverbes, les panoramiques, etc. Au-delà d'être une étape technique, il faut pas oublier que c'est aussi une étape de réalisation où il faut mettre en avant des éléments pour pousser la mise en scène encore plus loin, s'autoriser des choix de réalisation. Ça peut être des moments où la musique, elle prend le pas sur l'ambiance, elle est plus forte. À ce moment-là, on chante un petit peu les ambiances, etc. C'est des petits choix qui paraissent anodins, mais c'est des choix qui vont donner du coffre, du beaucoup de caractère à l'œuvre. Et artistiquement, c'est extrêmement important.
Ne cherchez pas le réalisme absolu. Nul besoin d'avoir un véritable enregistrement de la réverbération d'un lieu ou une modélisation physique exacte de celui-ci pour suggérer que vos personnages se trouvent dedans. Un plugin de réverbération basique pourra sûrement faire l'affaire. S'il y a 6 personnages en train de marcher, mettre 6 prises de bruitage de pas simultanément risque de perturber l'attention. Et si un personnage est éloigné d'un autre en premier plan, nul besoin d'altérer le son en fonction d'un modèle de dispersion des ondes sonores dans l'air, baissez juste le volume de la piste du personnage en question, de manière à ce que l'on comprenne qu'il soit loin, mais pas trop, afin que ses répliques soient toujours compréhensibles. Plus important que le réalisme sont l'intelligibilité et le confort d'écoute.
Pour garder une cohérence entre les voix de vos personnages et les bruitages qui leur sont associés, quand ils ou elles se déplacent par exemple, vous pouvez grouper ces éléments pour chaque personnage et appliquer les placements, changements de volume, etc. sur le groupe. Accessoirement, ça vous fera gagner du temps.
Regardez si vos VST ont des pré-réglages. Cela peut vous faire gagner du temps.
Multipliez les sources d'écoute. Tout le monde n'a pas les mêmes enceintes que vous, et le résultat varie plus qu'on ne le croit.
Pour un point de vue purement technique, faut bien veiller au bon niveau de la voix et surtout de la voix, vérifier qu'il n'y ait pas d'incohérence dans les niveaux, etc. et que tout soit bien audible.
Laissez reposer vos oreilles entre deux versions de mixage. La fatigue auditive s'installe parfois très vite. Ménagez-vous.
Buzz explosif est l'étape finale de la création. Une fois l'œuvre créée, il faut la diffuser. Pas de fiction sans public. Ce fut d'abord la radio qui diffusa des fictions, sous forme de feuilleton, puis ensuite sur cassette, puis ensuite sur CD, et puis enfin le podcast, avec des fichiers envoyés grâce à des flux RSS, qui aujourd'hui démocratisent la fiction audio. Si parfois les créateurs et créatrices indépendantes peuvent avoir leur propre plateforme, des labels existent et diffusent leur contenu sur des catalogues payants. Dans ce contexte, il est parfois difficile de se repérer dans les outils de publication, et la communication, y compris visuelle, devient de plus en plus importante. Dans la Sagasphère, nous sommes beaucoup à utiliser PodCloud, plateforme gratuite de diffusion de podcasts. Mais il y a aussi par exemple Vaudio, le label de l'association Bad Geek, qui organise Podren. Ou encore LibrePlay, qui répertorie toutes les œuvres libres aux droits et les repartage, mais diffuse aussi de la fiction sonore. Mais la communication se fait aussi par des festivals, qu'ils soient amateurs ou professionnels, comme au Paris Podcast Festival, ou au Festival Longueur d'onde, ou encore à Pod Paris, en octobre.
Je n'ai pas spécialement beaucoup de regards sur les réseaux sociaux. La communication, pour moi, elle se fait malheureusement au détriment d'une sorte d'éthique personnelle, puisqu'il faut savoir en gros se vendre, ou en tout cas vendre une partie de son œuvre, parfois en la galvaudant, pour en faire parler, pour la faire connaître, ce qui n'est pas forcément la chose qu'on aimerait voir, ou en tout cas, c'est pas forcément ce qui rendrait justice à nos créations. Moi, mon conseil, il est simple, faites un journal de bord. Je l'ai fait. Déjà, c'est très amusant. Et ça implique une communauté qui ne fera que grandir. Donc faites un journal de bord, c'est-à-dire montrer étape par étape les points clés, en tout cas de la confection de votre récit, de votre histoire, et éventuellement impliquer les comédiens, comédiennes ou toutes les parties prenantes qui ont partagé cette création avec vous. C'est pour moi le rapport le plus humain lié à la communication et à la diffusion. Pour le reste, je n'aurai absolument aucune crédibilité, aucune légitimité à vous donner des conseils sur d'autres points concernant ces deux médias.
Définissez le profil de vos potentiels auditeurs. Qui et pourquoi ils voudraient écouter votre fiction? Une fois que vous l'avez défini, allez les chercher là où ils sont regroupés. Donnez-leur envie de vous découvrir. N'ayez pas peur de démarcher sur Twitter, Facebook et autres réseaux. Faites-le juste avec mesure et respect.
Prévoyez une routine de sortie à l'avance sur vos réseaux sociaux et listez toutes les informations importantes dans un document à part pour ne rien oublier le jour J. Le synopsis de l'histoire, quels participants et participantes, leur rôle, tous les liens possibles et les tags. Les hashtags doivent être pertinents et accessibles pour votre public potentiel qui s'intéresse à votre sujet, celui dont vous traitez.
Recevoir une critique négative, en particulier si cela vient d'un proche, peut être très difficile. Gardez en tête que la critique de votre œuvre n'est pas le jugement de votre personne, même si cela peut y ressembler quand c'est pas très bien fait. Et surtout, qu'une critique en dit à peu près autant sur celui ou celle qui la formule que sur son sujet. Une bonne critique est capable de démontrer par des arguments son point de vue, en s'appuyant sur des éléments constitutifs de l'œuvre en question. Elle ne doit pas être décourageante, mais bienveillante, en ne négligeant pas le sentiment de vulnérabilité que vous pouvez ressentir en exposant votre création, en particulier si cela est votre première œuvre. Une bonne critique doit aussi prendre en compte vos conditions de production et votre niveau, et ne pas avoir des attentes irréalistes par rapport à votre situation.
Un grand grand merci à toutes les personnes qui ont collaboré à ces capsules et à ce projet de chasse aux œufs sonores, et notamment François TJP qui a coordonné le pôle fiction sonore de Podren, et bien sûr évidemment à toutes les personnes qui ont participé à cette dernière capsule et qui nous ont fait l'honneur de partager leur expérience, à savoir
Greenpuss,
Nico alias Ego,
Devil Goat,
Ecost,
Farzor,
Roman Fasseries Lacoste,
Quam,
Geek Forever Prod,
X-Rem,
Ptolémée.
Maintenant, plus que de s'approprier l'œufreille de quelqu'un d'autre, à nous de trouver notre propre œufreille et de suivre nos propres conseils.